Je suis heureux de vous accueillir dans une toile d'araignée, dans des œufs de basilic. Ouf, je vais vous faire peur, mesdames. Ça vous dérange pas trop? Les paraboles de l'Ancien Testament. C'est rempli de paraboles, la Bible, d'images, de comparaisons, pour que, en sortant d'ici, les gens disent tous « j'ai compris ». Je vais prier avec vous. Parce que l'essentiel, c'est la prière qui éclaire notre cœur pour recevoir cette parole. Je vous inviterai à vous lever quelques secondes, si vous pouvez, et je vais prier le Seigneur. Nous sommes venus entendre ta parole parce que c'est elle qui nous donne la vie éternelle. Nous te remercions de nous avoir adressé cette parole dans notre monde qui a besoin de lumière, de chemin, de vérité. Touche-nous, nous avons besoin d'être guéris, réconfortés, réchauffés, réconciliés, apaisés. Tu es le Père, le Dieu vivant et vrai. Tu es celui qui prend soin de ses enfants. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, mes amis, et je le rappelle, le thème de cette méditation, le mur, le serpent et la toile d'araignée. Je vais donc faire la lecture dans le prophète Ésaïe, parce que nous voulons puiser toutes nos paroles de la parole de Dieu. On ne veut rien inventer, on veut simplement répéter et interpréter. Ésaïe 59, verset 1er. Tout est là. Si vous n'avez pas la Bible, vous écoutez. Non, la main de l'Éternel, du Seigneur, donc, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, comme un nuage, et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ça, c'était le conflit entre Dieu et Israël de ce temps-là. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic. Voilà ma petite histoire. Et ils tissent des toiles d'araignée. Voilà ma petite histoire. Je répète, ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. J'arrête là parce que c'est catastrophique. Mais n'est-ce pas catastrophique aussi notre monde? Pensez qu'aujourd'hui, partout, les guerres prennent feu, partout, des gens souffrent et se plaignent. Vous ne pensez pas que notre monde, c'est un peu le reflet de ça? Et que le conflit avec Israël, c'est un peu l'image de tous nos conflits entre nous et avec Dieu. Alors, je vous parle donc de ces trois petites paraboles. Vos péchés mettent un mur entre Dieu et vous. Un mur de séparation. Ouf ! Le mur de Berlin est tombé. J'ai pas mal. Le mur de Berlin, il y a 30 ans, on a fêté l'anniversaire, on a mis par terre cet horrible mur avec les fils barbelés que j'ai vus il y a plus de 30 ans donc. Mais il y a encore sur la terre 40 murs à faire tomber. que ce soit au Mexique, n'en parlons pas, 1200 km de murs, que ce soit à Jérusalem, même à Jérusalem, et en Chine, la Grande Muraille et d'autres, il y a des murs partout, même entre les voisins. Il y a sur la Terre 2600 km de murs. Ça veut dire séparation pour se protéger des voisins. Ça veut dire on ne se fréquente pas, on ne s'entend pas, on ne se voit pas. Est-ce que Dieu va se trouver enfermé dans ses murs? Est-ce qu'on peut mettre un mur entre nous et Dieu? L'espace n'arrête pas Dieu. Nos petitesses n'arrêtent pas Dieu. Nos échecs familiaux, nos échecs humains n'arrêtent pas Dieu. Notre inintelligence parfois sur beaucoup de choses n'arrête pas Dieu. Qui peut arrêter Dieu vraiment? Écoutez, Dieu c'est comme la lumière, rien ne l'arrête. La seule chose qui arrête Dieu, c'est même pas nos péchés, voyez-vous? C'est une porte qui claque, comme la porte du fils prodigue, et qui dit non, je ne veux pas. Ça, c'est un mur qui arrête Dieu. Ça, c'est un mur contre l'amour. Toutes nos fautes sont contre l'amour. Dans nos fautes, c'est ne pas savoir aimer. C'est ne pas aimer. Les deux commandements de la Bible, les deux plus grands, les deux seuls commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Toute la vie sur la terre repose sur cet équilibre fragile, mais très fort, de l'amour. Et le péché, c'est un péché contre l'amour. Donc, ça arrête Dieu. Ça, c'est le mur qui ne permet pas à Dieu de venir chez nous parce qu'on lui a dit avec méchanceté, non. Nos fautes sont des fautes contre la nature de Dieu, contre nature. Des fautes alors que Dieu est un Dieu d'ouverture, un Dieu de pont, un Dieu de relation, un Dieu qui accueille. Et nous avons dit non, c'est ça le péché. Quand j'étais enfant, on me disait, le péché c'est de manger trop de chocolat. C'était terrible pour moi. C'était une punition horrible de me priver de chocolat. Mais le péché, c'est faire du mal, c'est dire non à l'amour. C'est un péché contre notre nature aussi. Le péché agit contre notre propre vie, contre les autres, contre les proches surtout, contre la descendance, contre Dieu. Le péché, c'est un ravageur, c'est quelque chose qui détruit l'humanité. Dans le prophète Ésaïe encore, il est dit « Jérusalem chancelle, elle s'écroule parce que ses paroles et ses actes sont contre Dieu. » Si on touche à Dieu, on touche au pilier de l'humanité. Se moquer de Dieu, c'est se moquer de sa vie, de son avenir. On se moque de soi-même parce que c'est Dieu qui nous attend demain dans son royaume. La stabilité de la vie dépend de notre relation avec Dieu et les autres. Quelqu'un disait que Dieu est relation. Tout est relation chez lui. Et si nous n'avons pas cette qualité de la relation vraie, amour, nous sommes hors de la vie, hors du sens. Nos fautes, conscientes ou inconscientes, j'ai déjà grillé un feu rouge inconsciemment. J'ai dit à monsieur l'agent, je vous promets, je ne l'ai pas vu. Inconsciemment, ben, il m'a donné un magnifique PV inconsciemment. Et voilà. Nos fautes, conscientes ou inconscientes, nous éloignent de Dieu qui seul peut nous secourir. Dieu disait à Israël autrefois, « Ce que j'ai contre toi, Israël, c'est que tu t'es révolté contre celui qui peut te secourir. » Se révolter contre son père ou sa mère, c'est se révolter contre sa propre vie. C'est déraciner sa vie. C'est un non-sens. Je pense à la rébellion de l'enfant prodigue. qui a marqué un jour une séparation avec son père et sa mère certainement. Et il est parti loin. Et le péché, c'est ça, c'est un éloignement, c'est une séparation. Il est parti loin et il s'est vidé du sens de sa vie. Il s'est vidé de sa vie, de ce qui faisait toute la joie de son être. Mais Dieu nous réconcilie avec lui. Nous, on ne peut pas se réconcilier avec Dieu. L'autre jour, je regardais une photo du soleil avec cette petite planète qui s'appelle Mercure. Je ne sais pas si vous la connaissez, on ne la voit pas souvent. Mercure, qui est passé devant le soleil. Le soleil, magnifique, grand, immense. Et toute petite bille, une petite tête d'épingle qui est passée devant le soleil. Et je me dis, ce grand soleil, c'est comme Dieu. Et nous devant, on est si petits, presque rien. Et comment se réconcilier avec Dieu? Mais Dieu a fait le pas. C'est lui qui nous a accueillis, invités. Sinon, rien n'est possible. Si la réconciliation ne vient pas de là-haut, elle n'est pas possible. Alors, je parlais de mes murs, là. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, il a renversé le mur de séparation. Il a renversé le mur. Parce qu'il y avait un mur autrefois entre les Juifs et les non-Juifs. Il y avait des frictions et des malentendus et des incompréhensions. Et puis l'apôtre Paul, il dit, ça c'est un mur, on ne se comprend pas, on ne se rencontre pas, on ne se parle pas, on se fait la guerre. Et la Bible dit que Dieu a renversé ce mur afin de faire un seul peuple, une seule famille. C'est en cours encore, hein. On a encore du chemin à faire. Eh bien, ce mur de séparation entre Dieu et nous, le Christ l'a renversé. Il nous a mis nos mains fragiles et abîmées dans les mains de Dieu en nous disant « Voici ton Père » et Dieu a dit « Voici mon Fils qui était mort, il est revenu à la vie. Mon Fils était mort, il est revenu à la vie. » Vous avez compris? Ces murs, il y a peut-être des murs autour de vous. On peut avoir des murs dans sa tête, on peut avoir des murs dans son cœur. Jamais je peux lui pardonner, jamais je pourrai la regarder, je ne veux pas la voir, etc. Ce sont des murs, tout ça. Et le Seigneur a renversé. Il a fait de ces murs des ponts, des brèches, des ouvertures, surtout entre lui et nous. Je continue mon histoire, toujours au chapitre 59. Leurs œufs, vous avez vu au verset 5, ils couvent des œufs de basilic, 10 étoiles d'araignée, ce sera pour après, et celui qui mange de leurs œufs meurt. Bon appétit! Manger des œufs de serpent. Alors le basilic, je vais vous le décrire rapidement. Mesdames, vous allez bien l'apprécier, vous allez l'aimer. Je suis sûr qu'il y aura un coup de foudre dans votre cœur. C'est un petit lézard avec une crête dorsale, un petit monstre, le basilic. Et voilà que la Bible dit, mon peuple, il couve les œufs de basilic pour les réchauffer. Ce n'était pas son rôle. Il couve des œufs de basilic. Déception, parce que ces œufs finissent par éclore. Et dans l'œuf, qu'est-ce qu'il y a? Un reptile, une vipère. Et dans l'histoire ancienne, dans la mythologie, on disait que le regard du basilic, seulement son regard, peut tuer quelqu'un. Vous savez qu'il y a des gens, parfois, on dit que leurs regards sont des mitraillettes. Ils ont un regard qui fait mal. Les œufs de basilic, leur regard, tuer. C'est une histoire, bien sûr. Alors, j'ai pensé, la Bible parle d'un serpent depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le jardin du paradis jusqu'à l'Apocalypse, il y a un serpent qui devient un dragon, qui devient un monstre. Et ce serpent, eh bien, il a gagné une première bataille. Voilà, ouais, notre faute, on n'a qu'à s'en vouloir. La bataille avec Adam et Ève, il l'a gagnée. Il a réussi à mettre ce couple-là, ce gentil couple, qui n'est pas de voisin, qui était tranquille, qui était heureux comme tout, il les a mis dans la catastrophe. Mais c'est pareil chez vous. il nous a mis tous dans la catastrophe, il a gagné une bataille. Ce serpent ancien, ce dragon de l'Apocalypse depuis la Genèse. Mais il n'a pas gagné la guerre aussi, parce que le Seigneur est venu pour écraser le serpent, écraser le diable, parce que le serpent représente le diable. Alors, on couvre le serpent, on couvre les œufs, on s'amuse là. Hein. On s'amuse et on se croit maître, puis la Bible dit, ne soyez pas surpris, il y a un plaisir dans le péché. Il y a un plaisir dans le péché. On couvre le péché. Et puis le serpent finit par sortir, et puis il va nous mordre. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a couvées, qu'on a bien mijotées dans notre humanité, et puis finalement ce sont des choses qui sont devenues des dangers. On a exploité le pétrole. Le pétrole, vous connaissez, l'essence, etc. Eh bien, on a couvé dans ce pétrole un serpent. Aujourd'hui, la planète meurt à cause du pétrole. Partout, c'est la pollution qui détruit le climat, les océans, la terre, l'humanité. On a couvé un monstre en se servant du pétrole. Pourquoi personne nous a prévenus? Personne nous a dit « touchez pas à ça ». C'est comme avec l'atome, on aurait dû nous dire « ne touchez pas, c'est trop dangereux pour vous ». Y a-t-il quelqu'un qui aurait pu nous répondre? Y a-t-il un conseiller dans l'humanité? Y a-t-il un responsable de l'humanité? Oui, le responsable de l'humanité, c'est le Seigneur. Et les grandes questions qui nous tourmentent, sur l'après-vie, sur le sens de l'existence, sur le mal, toutes ces grandes questions qui nous travaillent, qui nous chavirent, eh bien Dieu nous les a révélées. Attention, ne touchez pas. Le péché, c'est une révélation de Dieu. Nous, on ne sait pas ce que c'était. La mort, l'après-mort, ce sont des révélations de Dieu. L'amour de Dieu, c'est une révélation de Dieu. Dieu disait à Adam et Ève, on revient à nos parents. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc il nous a mis des barrières, des limites. Il nous a appris la liberté. Il nous a appris à faire des choix. Il nous a appris à être maître de nous. Il nous a appris l'obéissance. Nous avons en nous, mes amis, une ignorance sur l'essentiel. On est capable d'avoir des instruments pour aller très très vite, très très loin, faire des courriers qui vont presque sur la lune. Et concernant la base de la vie, qui est la relation, la paix, l'après-vie, l'après-mort, on n'a pas de connaissance. Et des gens me disent, monsieur, ne parlez pas de ça, ça ne m'intéresse pas. Ne nous mettez pas la tristesse dans notre cœur, ça ne nous intéresse pas. J'en ai parlé l'autre jour en vous parlant sur la mort, en disant, dans un train, les gens ne savent pas où ils vont. Alors, c'est étonnant. Mais où allez-vous, monsieur? Vous avez payé votre billet, vous êtes dans le train, vous prenez un petit casse-croûte, vous buvez un café, où allez-vous? Ça ne m'intéresse pas, je n'ai rien à faire. Quelque chose qui tourne pas rond dans notre conception de la vie. Nous ne savons pas que tel chemin que nous prenons est un chemin de la mort. Alors, le pire dans cette histoire, vous avez vu? Ils ont mangé les œufs de serpent. On est capable des pires bêtises. Ils ont mangé les œufs de serpent. Et le serpent, bien sûr, il s'est développé dans le ventre. Moi, j'imagine la suite, parce que c'est Dieu qui dit ça. Ils ont mangé des œufs de serpent. Et ça s'est développé, et puis ça a dévoré. Nous avons mangé du mensonge, et ça a été doux à notre bouche. Et ça a été ensuite des graviers dans notre bouche. C'est une parole de la Bible. Au début, le mensonge est doux, et ensuite il devient comme des cailloux dans la bouche. C'est écrit dans les Proverbes. Nous avons mangé la débauche en pensant que c'était le plaisir total, et nous avons été déçus, et nous avons cassé des familles, nous avons fait du mal. Nous avons mangé des œufs de serpent. Nous avons pris de l'alcool sans penser que ça détruirait notre foi, notre cerveau, notre avenir, notre passé, nos relations, notre maman, notre frère. C'était terrible. Nous avons cultivé, nous avons mangé de la violence et notre caractère a changé, notre vision de la vie a changé. On n'a plus le respect des jours, des vieux jours des gens. On brise le cœur des mamans. Jésus est venu détruire le péché, détruire le mal qui finissait par régner sur nous. Il nous dominait. Jésus le disait, celui qui s'abandonne au mal est dominé par le mal. C'est le mal qui finit par le détruire, par régner sur lui. Que disait l'apôtre saint Paul ? Je ne fais pas le mal, non, je fais le mal que je ne veux pas faire. Je ne fais pas le bien que je veux faire. Il disait, je vois dans ma nature une loi qui lutte contre moi. Quand je veux dire une belle parole, j'en dis une mauvaise. Quand je veux faire une bonne action, j'en fais une mauvaise. Je sens, dit l'apôtre Paul, une autre loi en moi qui lutte contre moi. Je ne suis pas libre. Jésus l'a dit. Celui qui se livre, qui se donne au péché, est esclave du péché. Mais tout ça, c'est important. Ce sont mes œufs de basilic, mes œufs de serpent. Pardonnez-moi, mesdames. Vous allez me le dire à la sortie, ce n'est pas appétissant. Mais c'est comme ça. Bon. Un prophète de l'Ancien Testament, un jour, a une vision. Ce n'était pas des époques faciles. Notre époque n'est pas facile du tout. Il a vu sur la ville. Oh, vous allez me dire vraiment quelle vision quand même on a dans la Bible. Une masse de plomb, une énorme masse de plomb, 3000 tonnes, je ne sais pas, moi je ne peux pas vous dire, comme un nuage de plomb. Et le plomb, le Seigneur lui a dit, représente le mal. Oh, on ne pense pas que notre mal pèse si lourd, que notre mal menace la ville et menace nos enfants et nos usines et nos hôpitaux. Et nos crèches, partout il y a le mal. On a l'impression qu'une masse de plomb pèse sur les décisions de l'humanité. Partout, on sent une chape. Aujourd'hui, quelqu'un en Corse me disait ce matin, à l'hôpital, ça va mal, c'est plus comme avant. Oh, combien de fois je l'entends cette expression, ça a changé, c'est plus comme avant. Les gens sont tous pressés, stressés, énervés. La masse de plomb. Mes amis, nous avons besoin d'un coup de bistouri du médecin, du grand médecin. Et le Seigneur disait dans sa Bible, dans la parole de Dieu, que sa parole est comme un scalpel et comme un bistouri qui ôte le péché du monde. Je suis venu ôter le péché du monde. Alors, mes amis, ne gardons pas le plus petit grain de sable dans notre œil. Ne gardons pas des caillots de mal dans notre esprit. Le Seigneur est venu pour transformer, nous donner une fraîcheur, une vision de la vie différente. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'ai pas fini. Encore une petite bête que les dames aiment beaucoup. Les araignées. Ils tissent des toiles d'araignées. Voilà ce que dit le livre du prophète Ésaïe. Une petite parabole très courte. Ils tissent des toiles d'araignée et ils ne peuvent pas s'en couvrir comme un vêtement, les toiles d'araignée. Ça montre la fragilité. Ce mot-là aujourd'hui est très fréquent. La fragilité. Ce mot est appliqué aux personnes âgées, beaucoup. La fragilité. Appliqué aussi à tout ce qui va défaillir, tout ce qui succombe. La fragilité et la vanité de nos peines pour réussir quelque chose. La toile d'araignée représente ce qui ne tient pas, ce qui n'est pas durable. On fait beaucoup de choses et nous ne faisons rien. La toile d'araignée, est-ce que vous les enlevez parfois chez vous ? Un petit coup de balai, pouf, c'est vite fait. Hein. Mais la toile d'araignée, elle ne s'est pas faite comme ça. Je suis sûr que quand vous mettez un coup de balai dans une toile d'araignée, vous ne pensez pas que l'araignée, elle a fait 600 voyages. 600 voyages aller-retour pour tisser sa toile avec une beauté, une perfection, une régularité. C'est une perfection, la toile d'araignée. Eh bien, et vous, mesdames, comme ça, un petit coup de balai, pouf, il n'y en a plus. pas de saleté à la maison. Oh, quand même. Mais le plus grand, le plus magnifique, c'est que la toile d'araignée, elle vient de la mouche. La mouche a été digérée par l'araignée avec un estomac un peu spécial. L'araignée, elle a réussi à digérer l'araignée, la mouche, et l'araignée a fait du fil. Mais est-ce que vous savez que ce fil, c'est un des plus solides de l'univers ? Le fil le plus solide de la Terre, c'est le fil d'araignée. Moi, je ne parle pas du petit fil, mais si on mettait, on a déjà fait ça, de mettre des fils d'araignée en grande quantité, c'est capable de porter des pylônes, capable de faire des câbles. C'est solide comme tout. Alors, ça, c'est l'humanité, ça. Fragile et solide, à la fois. On fait, on défait. Mes amis, ça, je pense que c'est une image de notre vie. Réfléchissons bien ce que nous faisons, nous n'emporterons rien avec nous. On va faire beaucoup de choses et rien ne restera. Nous n'emporterons rien parce qu'il y aura un tribunal, nous passerons devant et tout ce qui n'est pas dans l'amour de Dieu et conforme au Seigneur ne passera pas. On n'emmènera pas là-haut des araignées, on n'emmènera pas là-haut le mal. Tout sera consumé avant. Les prophètes le disent dans la Bible, c'est pour le vide que j'ai travaillé, c'est pour le néant que j'ai travaillé, c'est pour le feu que j'ai travaillé. Seule la parole de Dieu donne du sens à la vie et de la force. Seule la parole de Dieu demeure éternellement, elle tient ses promesses, ses déclarations durent toujours. Alors, quelle image de notre existence. Araignée, toile d'araignée, serpent qui nous ravage, mur qui nous enferme, qu'allons-nous devenir ? On a l'impression que la terre, c'est un champ de bataille, c'est un univers invivable, c'est la plus vivable de toutes les planètes. Je le disais l'autre jour, mais qu'est-ce qui s'est passé sur la terre ? Qu'est-ce qui s'est passé sur notre terre pour qu'elle soit si belle, si magnifique? Partout, il y a de la vie. Partout, ça frémit, ça respire, ça bouge, ça se bat aussi. Qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Eh bien, Dieu l'a mise au bon endroit. Et Dieu l'a accompagnée de sa bénédiction. Et Dieu lui a parlé à la terre. Dieu a parlé à la terre et lui a dit que la terre fourmille de bêtes. Que l'univers fourmille de bêtes. Et voilà ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, la terre soit devenue un champ de bataille, avec des murs séparateurs, avec des serpents qui nous dévorent de l'intérieur, oh là là, avec des toiles d'araignées qui retiennent rien. Que s'est-il passé? Écoutez plutôt ce qui va se passer. Une voix crie dans le désert. Toute chair est comme l'herbe. Elle fleurit comme la fleur des champs et elle sèche. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Cette voix, c'est la voix de Jésus. C'est la voix du Seigneur. Une voix crie dans le désert. Voici votre Dieu. Comme un berger, il viendra nourrir son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Allez, il réparle. Là, ce n'est plus le serpent dans le ventre. Là, c'est le Christ en nous. Il répare. Il renverse les murs. Il ouvre nos yeux. Plus de murs. Libre accès auprès de Dieu. Si vous l'appelez ce soir, il sera là. Il vous dira, que veux-tu que je te fasse? Comme dans la Bible. Que veux-tu que je te fasse? Plus de serpent dévoreur en nous. Le Christ a dit, je viendrai à lui et je ferai ma demeure chez lui et j'habiterai chez lui. C'est le Christ qui vit en nous. Ce n'est pas le mal, c'est le Christ. La vie en toile d'araignée, non. La vie, personne ne vous la prendra. Elle est impérissable. Je vous ai donné la vie éternelle. Ne craignez pas, ne soyez sans crainte. Le Seigneur vous aime. Vous vivrez, dit Jésus, même si vous mourrez. Quand même vous seriez mort, vous vivrez toujours avec moi. Alors, ça a changé. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit apaisement à la fin là? Vous ne trouvez pas que les choses se règlent quand même? On a eu des dinosaures chez nous. Hein. Maintenant, nous avons des petits chats. Et là, maintenant, ce n'est plus les araignées, plus tout ça. Aujourd'hui, je vous prêche Jésus-Christ qui parcourt les collines de la Galilée et qui dit partout où il passe, venez à moi, vous tous fatigués, chargés par vos araignées, par votre fragilité, par... le serpent, venez à moi, vous tous fatigués, chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez mon fardeau parce qu'il est léger, prenez pas celui du monde, prenez mon fardeau, prenez mon pardon, prenez mon amour. La Bible dit, ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Jérusalem, elle ne chancelle pas. Voilà, c'est une image. Dieu nous appelle à vivre. Quelque chose, une belle histoire d'amour, de réconciliation. On renoue avec Dieu. Parfois on se déchire et on renoue. Mais toujours il est là. Toujours Dieu est accessible, proche de nous. Toujours il nous dit, ne crains pas, crois seulement, je te pardonne, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin du monde, je suis avec toi. Est-ce que mon histoire se termine bien ? Mieux quand même. Je vous souhaite de découvrir mieux Jésus. Que ce soit un réflexe, quand les choses vont mal, de dire « Seigneur, je n'ai plus la maîtrise, je ne sais plus, mais je te fais confiance. Je me remets en toi, je remets mon esprit dans tes mains, je remets ma destinée dans tes mains, psaume 31. Je remets ma destinée dans tes mains. Je me confie en toi. Je vais vous remettre dans les mains de Dieu, vous voulez bien ? Je vais prier le Seigneur, puis je vais dire, prends Madame Aubry par exemple, dans tes mains et garde-la, et vous, garde-nous. Je vous invite à baisser vos têtes et on va prier le Seigneur ensemble. Dans ce monde en souffrance, tu es venu, tu es descendu, tu t'es posé devant nos vies, et tu nous as tendu la main comme tu le fis avec la petite fille de Jaïrus qui était morte. Tu l'as prise par la main et tu lui as dit « Lève-toi, jeune fille !» Eh bien ce mot nous l'aimons, « Lève-toi !» Ce mot qui sent la résurrection, le renouveau de vie, ce mot qui nous fait dire « Puisqu'il est avec nous, sur nos chemins, nous n'allons rien craindre !» Nous allons lui remettre nos enfants, nous allons lui remettre notre destinée humaine. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Délivre-nous du mal et que ton règne vienne sur nous, que ce soit toi qui règnes sur nous. Seigneur, viens, je t'en prie, au nom de Jésus. Amen.